Bonjour Claude.
Bonjour.
Je suis content de t'accueillir ici à Auroville Radio, pouvoir parler français, ce qui est important pour moi et puis pour toi aussi, j'imagine.
Bien sûr.
Et tu as souhaité donner un petit aperçu du rôle du pavillon France ici à Auroville. Est-ce que tu pourrais commencer par nous en faire un bref compte-rendu historique ?
D'accord. Alors, le pavillon de France, à part le pavillon de l'Inde qui était à l'origine, qui était tout au départ, et après il y a eu le pavillon tibétain, mais c'est le pavillon qui a eu le plus grande histoire. Voilà. Déjà dans les années 93, il y a eu une inauguration en février avec J.R. Tata, enfin le grand Tata que l'on connaît, avec Mireille Albrecht. Ils ont planté un arbre, c'était l'arbre du pavillon. Ensuite, il y a une inauguration aussi quelques mois après, en août 93, avec l'ambassadeur de l'Inde, Monsieur Petit. Et là, il y avait déjà, donc là, on a mis la première pierre, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours près du Visitor Center. À l'époque, comme Aurélien, il y avait Claude Harpy, Gilles Guigan, je crois, Jean Pougaud, voilà, ce dont je me souviens. Je n'étais pas encore là. D'accord. Je suis arrivé en 96 pour m'y installer, mais j'étais là en 86.
Et qu'est-ce qui, personnellement, t'a impliqué dans cette activité-là plutôt qu'une autre ?
Mais en arrivant, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par le matrimoine, comme beaucoup de gens. J'ai fait de la poterie, j'ai travaillé avec un paysagiste. Et ensuite, je me suis beaucoup plus intéressé au pavillon de France parce que, d'abord, j'avais un ami Serge Brelin, qui, lui, avait, parce qu'il y a eu une grande rupture après des certains faits qu'il y a eu là, parce qu'il y a eu des changements de plan, etc. Donc, cette histoire a repris, disons, dans les années 80, après peut-être cette inauguration. Serge Brelin a dû prendre la suite à ce niveau-là, mais il ne se passait pas grand-chose. On faisait des réunions, on recevait des personnalités françaises, et c'est tout ce que l'on faisait. Et il y avait la revue d'Auroville, quand même.
Tu dis « on », c'est le pavillon France.
On avait une petite équipe qui était là, et on faisait juste des réunions, c'est tout. On essayait de penser à... On travaillait sur l'âme de la France. C'est quoi l'âme de la France ? Voilà.
D'accord.
Comme Mère le souhaitait. Et donc, à partir d'un certain moment, Serge... On a travaillé beaucoup plus avec Serge et moi pour développer un peu ses activités. Bon, Serge, malheureusement, est tombé malade. Il a un peu lâché tout ça. Il m'a donné toutes les archives et tout ce qui... Voilà. Et un jour, il m'a dit, voilà, ça m'a un peu touché, Claude, ça sera mieux entre tes mains. Et quelques mois après, il est parti.
Donc c'est aussi en mémoire...
En mémoire de Serge, de tout Serge le travail qu'il a fait, parce qu'il a fait un travail de recherche énorme pour le pavillon de France.
D'accord. Et alors donc, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on appelle le pavillon France, qui n'existe pas réellement, concrètement.
Ouais.
Est-ce que derrière ça veut dire qu'il y a toujours ce projet de créer un pavillon d'une manière concrète ?
Bien sûr, et on va sûr un jour le pavillon de France va le jour, on aura de quoi mettre dedans, parce qu'il y en a qui veulent qu'on ait un pavillon, mais pour l'instant ils n'ont pas fait beaucoup d'activités. C'est pas des reproches, mais c'est des constatations simplement. Et le pavillon France actuellement, c'est le seul pavillon qui vraiment fait des activités qui représentent des choses dans Auroville. Voilà.
Alors donc, pour nous éclairer, tu peux peut-être mettre en valeur les activités aujourd'hui que le pavillon France, qui n'existe pas sous forme concrète,
physique,
mais qui a l'objectif de le devenir.
D'accord.
Quelles sont les activités qui sont portées par le pavillon France.
Je vais d'abord rappeler quand même ce que Mère voulait des pavillons. Elle souhaitait qu'il y ait des pavillons pour exprimer l'âme de chaque pays, la culture de chaque pays. Non pas pour planter un drapeau sur chaque bâtiment, mais pour qu'il y ait des échanges, dans le sens d'une certaine unité dans chaque pays, et tout en respectant bien sûr la diversité. Voilà, c'était un peu les écrits de Mère, et on essaye de faire respecter ça. En plus, Mère avait demandé aussi qu'à Auroville, il y ait quatre langues. Le tamoul, d'abord, le français, le sanskrit et l'anglais. Bon, c'est l'anglais qui domine un peu comme partout, mais ça n'empêche pas qu'on peut respecter ces quatre langues. Et au pavillon de France, je m'attache à respecter cette langue française, qui est quand même demandée par Mère, et puis une langue aussi appréciée dans le monde entier. Voilà.
demandé bon. Aussi par les Français qui vivent ici.
Oui, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes, hein. nous sommes quand même, la majorité des Français sont en majorité, à part les Indiens bien sûr, sont en majorité à Roville, on a à peu près 340 en ce moment. Alors une chose aussi, c'est que quand on fait des événements, ben, on a, c'est là que l'on voit que l'on est beaucoup de francophones ici à Roville, la salle est, est pleine en moyenne à 90%, la salle du Paradiso qui contient 120-130 personnes, et parfois on dépasse bien sûr beaucoup ce nombre.
Donc pour revenir à la question, à savoir quelles sont les activités qui sont initiées par, qui sont actuellement initiées par le Pavillon France, et puis ensuite on posera la question à tes collaborateurs de quelles sont les perspectives que eux veulent porter.
D'accord. D'abord, je peux rappeler que la revue d'Auroville s'appelait, qui est en français, qui existe toujours. Il y en a quatre numéros par an qui sortent. Mais au début, c'était Serge qui avait créé cette revue qui s'appelait la Revue du Pavillon de France. Le but de cette revue, c'était de mentionner toutes les activités du Pavillon de France. Mais comme il n'y avait pas grand-chose à l'époque, ça s'est transformé en la Revue d'Auroville. Voilà.
Et c'est en français.
Et c'est en français. Et maintenant, c'est Christine Devin qui est la responsable de cette revue. Il y a Claude Harpy, il y a moi aussi un petit peu, enfin différentes personnes qui travaillent, mais c'est surtout Christine qui est à la tête de cette revue. Ensuite, en 2001, on a créé Oro Traduction. Oro Traduction, c'est un service d'Auroville, reconnu par Auroville bien sûr, et qui traduit les nouvelles qui sont en anglais. On les traduit en tamoul et en français. Donc on a une petite équipe. On est quatre maintenant pour l'instant. Une partie qui est le tamoul, il y a deux personnes pour le tamoul et deux personnes pour l'anglais, pour le français, pardon, de l'anglais vers le français. Et ça existe depuis 2001, donc 14 ans. Et la même équipe, c'est quand même rare à Auroville, je peux te dire. Voilà. En 2004, alors cette équipe, je vais quand même mentionner les noms, il y a Tilaï et Vachalam, et qui est partie, qui est remplacée par une jeune femme, donc, qui est il y a très nouvelle, je ne me souviens plus le nom. Et en français, il y a Svar, il y avait moi un certain moment, et maintenant il y a Julien aussi. Svar et Julien, qui travaillent ensemble. Ensuite, en 2004, j'ai toujours pour le respect de ces quatre langues, j'ai créé un livre qui s'appelle Orolangue. Alors l'histoire de ce livre, c'est assez intéressante parce que pendant un an, donc en 2003, toutes les semaines, je faisais un tableau avec cinq mots français, repris, ces cinq mots étaient repris dans une phrase, et ces cinq mots étaient traduits en quatre langues, français, tamoul, anglais, sanskrit. Ça, c'était le premier livre que l'on a fait, comme mère le souhaitait. Et c'est un succès énorme. Donc au bout d'un an, j'avais les 50 leçons. Au lieu de les jeter, j'ai dit quand même, c'est dommage, on a fait un livre qui s'appelle Orolangue, et quelqu'un m'a dimensionné le fait de faire un CD. Ça serait quand même bien de faire un CD. Bon, ok. On a même fait des petites cassettes, des cassettes autrefois, ça marchait comme ça, il n'y avait pas encore de CD. Ensuite, on m'a demandé, pour une question de commerciale, c'était à Landmark à Chennai, on m'a demandé de le transformer ce livre, d'enlever, de réduire le format pour qu'il puisse rentrer dans les cases. Bon, c'est comme ça. Et d'enlever le sanskrit, de mettre le hindi à la place. C'est ce qu'on a fait, donc encore un an de travail. Et là est sorti donc Orolangue 2, j'appelle ça Orolangue 2 avec le hindi. CD, bien sûr, il y a toujours un CD dedans. Alors, il y a plusieurs points de vente en Inde, notamment en Auroville. J'ai un distributeur en France. Et un jour, je reçois une lettre du centre Pompidou. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on mette votre livre dans notre bibliothèque? Bon, j'étais vraiment surpris d'en savoir ça, mais bien sûr, j'ai accepté. Pour vous dire un peu ce livre, quand même, qui marche bien. Et j'en vends toujours. Hein. On en est à peu près à 3500 exemplaires vendus, sans grande publicité, vendant discrètement. Voilà. Et je crois que c'est un livre qui se démodera jamais. Voilà, pour le début. Alors, maintenant, il y a d'autres activités, bien sûr. On a organisé un service qui s'occupe de recevoir, ça depuis plusieurs années aussi, de recevoir les francophones. Il y avait beaucoup de visites organisées, mais pour des anglophones et rien pour les francophones. Donc on a fait ça. Et ça aussi, c'est Véronique Jobard, pour l'instant, qui assure ce service. et qui reçoit beaucoup de gens. Alors le but, c'est donc pendant une demi-journée, une journée, selon le souhait des personnes, de les promener dans Euroville, de leur expliquer un peu ce que c'est Euroville. Lié à cela, Véronique a développé un service, c'est-à-dire que de France, on peut l'appeler, l'envoyer un email et lui demander de réserver un taxi, de réserver une chambre, de réserver une moto, un vélo, etc. D'accord. Donc c'est un service qui est aussi intéressant pour les gens qui arrivent ne connaissent pas. Alors en 2006, voilà, on a commencé notre première conférence et j'ignorais complètement comment ça allait marcher. C'était les Cathares. Et bon, je me suis dit, on va avoir une quinzaine de personnes, comme ça, 15-20 personnes, on était 40-50 personnes.
Au cinéma Paradiso.
Non, ça se passait à l'époque au pavillon de l'Unité, qui venait d'être construit.
D'accord. Voilà.
Mais bon, c'était un public francophone et on voulait que ça soit aussi compris par des anglophones. Donc j'avais demandé à Svar de traduire, pas simultanément, c'est ce que l'on fait maintenant, mais de traduire après, quand la personne est parlé en français, de traduire en anglais. Mais Svar, c'est pas du tout un professionnel de ça. Il oubliait ce que l'autre avait dit, donc on se rappelait plus. Enfin, c'était un peu très lourd. Et quelqu'un vient me taper sur l'épaule, et c'était Shradavan qui me dit « Claude, si tu veux, je peux traduire. » C'était mon travail en France. Traductrice professionnelle. Je suis bienvenu. Donc, tout de suite, Shradavan a pris la place de Svar. Et voilà, on a commencé nos conférences comme ça.
Avec une traduction simultanée.
Pas simultanée, c'était juste à côté, juste après.
Ouais.
Mais simultanée, ça va venir après.
Ouais, d'accord.
Donc, on a fait 6 conférences comme ça, Shradavan. Et puis, il y a un ingénieur du son, qui je ne me rappelle plus son nom, qui était ici, qui m'a fait un système très rudimentaire pour qu'on puisse faire des traductions simultanées. Et là, comme quoi les choses se déroulent bien quand elles doivent se dérouler, quand ça correspond vraiment à des besoins, tout arrive. Et Sophie, qui était prof à transition, m'a dit « Écoute, Claude, je vais essayer. » Et tout de suite, ça a marché simultanément. Donc maintenant, depuis très longtemps, on fait des traductions, avec des conférences, pardon, avec traductions simultanées. Donc Sophie a embauché des gars, elle les a formés, des personnes, d'autres personnes, donc on est environ en ce moment 4 ou 5, mais ça bouge beaucoup, mais 4 ou 5 qui peuvent traduire simultanément.
D'accord. Donc tout ça demande de la présence humaine, hein,
l'investissement
du temps.
Ça demande la radio qui enregistre.
J'imagine que pour chaque conférence, il y a une préparation en amont.
Bien sûr, rencontrer
la personne, faire le brief, etc., etc. Tout ça, c'est...
Voilà.
Quand nous, en tant que spectateurs, on arrive, tout est prêt. Mais en amont, il y a tout un travail de préparation.
Voilà. Et toutes nos conférences, je ne veux pas faire une conférence pour faire une conférence, toutes nos conférences sont axées un peu dans l'esprit d'Euroville, au niveau de la recherche, au niveau artistique, au niveau écologie, enfin, tous ces domaines-là. Voilà.
D'accord.
Alors, dans les conférences, on en est actuellement à 180. C'est quand même un beau chiffre. Ce n'est pas des conférences, pardon. Au niveau de 180 événements, excusez-moi. Dans ces événements, on a des conférences, on a des films, on a de la poésie, on a des concerts de musique, on a des dédicaces de livres, on a des expositions. Voilà, c'est très très varié. Et très souvent, il y a eu présentation de films, il y a eu des réalisateurs qui étaient là. Joël Farge, Véronique Jeannot, Franck Aprédéris, voilà, qui étaient là pour présenter leurs films. Et là, c'était vraiment merveilleux parce que c'était du vivant. Voilà. On a eu des conférences aussi assez mémorables, hein, où il y a eu plein de gens de Pondy qui venaient, hein, c'était tout dans les débuts, ça ne se faisait pas là, simultanément comme ça, donc c'est une longue histoire ces conférences.
D'accord.
Et bien sûr, pour ces conférences, il faut aussi acheter des casques. Donc il y a toute une petite équipe qui s'occupe des casques pour donner aux gens, qui les règle sur un certain canal, etc. Enfin, c'est tout un travail. Alors, toutes ces conférences, principalement les conférences, ont été retranscrites, ça veut dire que des gens nous ont aidés pour... On obtenait un CD de la radio, de la conférence. Quelqu'un devait le retranscrire sur papier. Et le but de ça, c'est... Maintenant, on voit le résultat. C'est de faire sortir des fascicules qui parlent de ces conférences. On ne va pas toutes les faire, mais...
Qui retranscrivent les conférences.
On les retranscrit,
oui.
C'est retapé sur papier.
Oui, c'est ça.
Et maintenant, on les retravaille pour en faire sur des fascicules pour la lecture.
D'accord.
Donc il faut retravailler ça, parce qu'il y a une différence entre la parole et la lecture.
D'accord. Avec l'autorisation des...
Avec l'autorisation de chaque conférencier.
D'accord, bien sûr. Voilà.
Pour l'instant, nous en sommes bientôt à, enfin, c'est la semaine prochaine, à 6 fascicules, mais on en a une dizaine en prévision, qu'il faut retravailler.
D'accord.
Donc tu vois, il y a tout un travail derrière.
Ouais.
Alors, pour... toujours parler du pavillon de France. À une certaine époque, on recevait pas mal d'officiels, mais j'avais aucun document vraiment clair sur ce pavillon de France. Qu'est-ce qu'on faisait? Quelle est l'histoire de Reville aussi dedans? Maire, Cherubino, etc. Donc j'ai demandé à, j'ai rassemblé tous ces éléments, j'ai demandé à Karine, qui malheureusement est partie maintenant, qui nous a mis ça en forme, et c'est vraiment un très beau document que je donne principalement aux officiels.
D'accord. Donc le pavillon France est un peu un trait d'union avec la France. Hein,
tout à fait, en
coopération avec le consulat.
Voilà, tout à fait. Alors, on peut en parler maintenant, d'ailleurs, parce que depuis très longtemps, je suis en relation avec toutes les institutions françaises de Pondichéry. Principalement le consulat, ensuite l'Alliance française, avec qui on peut avoir des échanges culturels. Mmh. Ensuite, le lycée français, on a également des échanges à certains niveaux. L'Institut français de Pondichéry, qui font des recherches, et c'est un institut qui date depuis 1800 et quelques,
voilà.
Et l'École d'Extrême-Orient, qui sont spécialisées dans les langues, surtout sanskrites anciennes.
Voilà. Alors, puisqu'on est dans l'échange de relations, il y a une question qui me venait, qui est la relation avec l'association française. Est-ce qu'il y a une relation qui perdure, qui continue? Parce que je pense que tu as même été membre du conseil d'administration d'Euroville France.
Mm-hmm. Alors, pour vous expliquer aussi, il y a une association qui s'est montée dans les années 1992 avec Mireille Albrecht, une association d'Euroville du pavillon de France en France.
D'accord.
Voilà. C'était une association parallèle à l'association d'Euroville internationale France. Bon, il y a eu des petits malentendus à une certaine époque. J'ai réussi, après maintes conversations, etc., maintes échanges, de relier maintenant les deux associations, et ils sont toujours séparés, mais on travaille ensemble. On peut dire ça comme ça. On a des bonnes relations maintenant, et même à l'association d'Euroville, aide financièrement le pavillon de France pour mener à bien tous ces événements. Voilà.
Mais est-ce qu'il y a encore en France une activité pavillon France?
Oui. Il va y avoir, je vais te dire pourquoi, parce que on essaye de mettre à plat tout cela. Il y a une restructuration de cette association France, et il va falloir, pour qu'on puisse bénéficier des bons de réduction avec les impôts, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, justifier d'activités. Ça peut être des conférences, ça peut être des choses comme ça. Mais il y en aura très peu, ce ne sont pas du tout les mêmes que AIF, que l'association de Reville en France.
C'est plus une
conférence.
J'avoue, devant nos auditeurs, que je suis un petit peu surpris, parce que moi qui fais partie aussi du conseil d'administration, je ne savais pas qu'il y avait une activité au sein du pavillon France en France.
Pour l'instant, c'est simplement... On a demandé à Gilles Lachaud, qui est le président de l'association en France. Bon, moi, je suis secrétaire. Patricia Lachaud est trésorière. Voilà.
D'accord.
Mais Gilles, pour l'instant, c'est simplement une conférence, deux, trois, quatre conférences qu'il a données à Toulouse. Comme ça, on l'appelle pour parler d'Euroville. C'est tout. Voilà, c'est tout.
Mais
en dehors du cadre de l'association d'Euroville. Mais ça, il faut qu'on en reparle un jour. Ça, mais ça n'a...
Non, parce que Nadia Allouri, qui est notre présidente, a été présidente du pavillon France.
Oui. Alors, on lui a demandé de démissionner, parce qu'elle ne pouvait pas être présidente des deux associations. Hein. C'était un peu compliqué, sinon. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Hein.
Oui,
pas de problème. Donc, on essaye de relancer en France toutes ces activités. Parce qu'un jour, on va en venir un peu plus tard, on en parlera, mais il faudra qu'on arrive à construire ce pavillon. Donc, on aura besoin de l'aide d'AIF, on aura besoin de l'aide d'associations en France, etc., pour récolter des fonds.
D'accord.
Voilà. Comme autre service, il y a un service tous les mardis avec Andanda et Michiko, une conversation en français à la terrasse.
D'accord.
Donc il y a des gens qui viennent parler. Pour les 10 ans d'Eurotraduction, on a tiré un petit fascicule. Pour le 100e événement du pavillon de France, on a tiré également un livre que l'on donne, hein, reprenant tous les événements qui se sont passés durant ces premières années. Voilà. On a maintenant, il y a deux nouveaux événements qui se produisent, c'est des ateliers d'écriture bêtises, depuis le début de l'année, et un cycle de cercle de femmes qui va avoir le jour au mois de novembre. Alors, c'est tout nouveau.
Il animé est, par
avec le premier atelier d'écriture par Florence Guichard, qui est là pendant un an, et le deuxième par une newcomer, Sylvie Houbre, qui va organiser ça, qui faisait déjà un peu ce travail en France, mais elle a envie de faire ça.
Voilà. Ouais, toi, maintenant, tu te concentres sur, à titre personnel, sur quelle activité au sein du pavillon France ?
Maintenant, pour résumer, nous sommes 12 personnes à peu près au sein du pavillon de France. Chacun a sa petite activité, son activité. Hein. Il y a Marie aussi qui est rentrée depuis un an, mais j'étais malade, donc j'étais absent. Marie est rentrée, elle m'a bien secondé sur la partie administrative, prévoir les dates pour les conférences, faire l'affiche, etc. Voilà. Donc en total, nous sommes 12 personnes. Maintenant, je délègue de plus en plus et j'essaie de me concentrer sur le travail avec la zone internationale. Et le but de ce travail, c'est qu'on arrive enfin à voir le jour pour la construction de ces pavillons. Pas que le pavillon de France. Justement, on n'avance pas tout seul, on va avancer à plusieurs pavillons pour influencer ce projet qui a des oppositions. Enfin, il y a pas mal d'histoires à cause de tout ça.
D'accord.
Donc, si on peut avancer à plusieurs, on aura beaucoup plus de force.
D'accord.
Donc, je me consacre principalement maintenant à cette activité-là.
D'accord.
Julien, qui est newcomer encore, mais très peu de temps encore, mais qui travaille, qui est là depuis 3 ans à Auroville, et qui m'aide beaucoup, donc il a remplacé Svar quand il était absent, mais il m'aide beaucoup pour le site du Pavillon de France, dont je n'ai pas parlé. On a sorti un site du Pavillon de France, pavillondefrance.com, et dedans, toutes nos activités, mais pas que ça, tous les pionniers d'Auroville français, ceux qui avaient voulu nous donner leurs photos, la première caravane, la deuxième caravane, tous les livres en français qui sont parus sur Auroville, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dedans, donc je vous invite à aller voir ce site que Julien entretient, alimente.
Voilà. Donc c'est
Pavillon de France.
Le pavillon ?
Non, pavillondefrance.com.
Alors ça s'écrit, tu peux P-A-V-I-2-L-O-N.
Point. Non, pavillon 2. P-A-V-I-2-L-O-N-D-E-F-R-A-N-C-E.
Ouais.
Point.com.
D'accord, c'est
pavillondefrance.com. Et c'est un site très, 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 très bien fait.
D'accord. Donc,
voilà.
Courez-y, allez voir. Merci Claude.
Merci, merci à toi.
Bonjour Julien, je suis content de t'accueillir ici à la radio d'Auroville. Et tes voisins d'ailleurs, hein, je crois que tu travailles à côté au pavillon France.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton rôle là-bas, parce que je crois que tu viens d'arriver et je crois que tu n'es pas encore Auroviliens.
Non.
T'es newcomer,
ouais. Non. Je suis newcomer depuis plusieurs mois, depuis le mois de décembre l'année dernière. Et je suis arrivé au pavillon de France il n'y a pas très très longtemps. J'avais besoin de changer d'activité, j'avais besoin aussi de beaucoup me reposer. Enfin, de beaucoup me reposer. Plutôt d'être un petit peu... j'étais quand même très fatigué. Et je travaillais déjà avec le pavillon de France de manière très ponctuelle. Et là, c'était l'occasion de m'engager un petit peu plus, d'aller dans des activités qui étaient plus souples, plus ludiques et qui allaient m'apporter, à ce moment-là, sur le plan personnel, qui allaient m'apporter quelque chose dont j'avais besoin.
Par rapport à tes attentes, est-ce que...
Elles ont été comblées dès le départ, parce qu'on a commencé à travailler tranquillement sur des choses très claires. Tu me demandais quel est mon rôle. À ce moment-là, je continuais à aider pour la mise à jour de leur site internet, de donner un coup de main pour la traduction des nouvelles en français. Et puis, là, récemment, on s'est mis à sous-titrer les documentaires qui étaient en français jusque-là, pour la plupart. On s'est mis à les sous-titrer en anglais. Donc, ça a augmenté
mon application. Métier que tu as appris, sous-titreur.
Voilà, ce que j'ai appris sur le tas et que j'aime énormément. Et donc, on va continuer. Et moi, ça me plaît beaucoup.
Et alors, donc, quels sont les projets que tu as envie de porter maintenant au sein de ton activité au pavillon de France?
Et ben maintenir cette activité de sous-titres. C'est la première fois pour moi que j'ai une activité qui est liée à quelque chose de culturel. Et je peux voir un petit peu comment ça met en lien les gens et les idées aussi, hein, les concepts, en tout cas ça permet de les faire partager. Donc ça crée quelque chose, de toute façon dans l'humain ça crée une émulsion. Et puis, donc d'abord l'activité de sous-titres que j'aime beaucoup, la mise à jour du site internet aussi, c'est bien de faire connaître le pavillon de France par ce biais-là. Et j'ai envie de surveiller d'un œil aussi les projets qui se passent dans le développement de la zone internationale pour comprendre un petit peu mieux quel va être ou quel doit être le rôle de l'implémentation des pavillons dans le contexte des projets d'Euroville. On dit faire une unité humaine à travers la diversité. Voilà, je voudrais voir quand même comment ça se concrétise, quel sens ça prend, et m'y intéresser de cette façon.
Est-ce qu'il y a une activité ou un élément qui n'a pas été encore, que tu n'as pas encore dit et qui, à tes yeux, est important, que tu voudrais faire entendre aux auditeurs ?
Oui, il y a quelque chose qui m'incite à rester au moins autant que les activités, c'est l'atmosphère et le relationnel qu'il y a dans le groupe. Il est tantôt réduit, tantôt un petit peu plus gros selon la charge de choses à faire, mais en tout cas, moi je peux trouver là beaucoup de flexibilité, beaucoup de... Il y a beaucoup d'humains, hein. J'ai pas envie non plus d'en faire quelque chose de très très, médaille d'or pour le pavillon de France, des choses comme ça, c'est en fait très naturel, très normal, c'est très normal au quotidien, mais moi j'y trouve mon compte dans le relationnel et ça me... j'aime beaucoup.
D'accord.
Voilà.
Bon, donc c'est en même temps un travail plaisant, humainement et on va dire techniquement, spirituellement.
Et dans son
donc,
contenu,
Est-ce que tu es un homme heureux à Rouville ?
Ça se passe bien pour moi.
Et je te remercie, Julien.
Mais je t'en prie, merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et bonne route alors.
Merci.